Midi passé sur l'antenne de News FM, bon appétit à toutes et à tous, si vous êtes à table, si vous vous préparez à passer à table en cette belle journée du samedi 4 septembre. Vous le savez si vous êtes avec nous depuis ce matin, nous sommes installés au Palais des Sports de Grenoble, en direct pour ces plateaux où nous diffusons, nous recevons des invités au gré de la journée. Qu'est-ce qui se passe au Palais des Sports, vous allez me demander? Eh bien, c'est le Forum des associations, le grand événement de la rentrée pour la vie grenobloise. À noter également qu'en parallèle, il y a le Forum des Sports à la Halle Clémenceau, juste à côté. Donc, n'hésitez pas à venir rencontrer plus de 100 associations qui sont ici présentes dans ce Palais des Sports. Attention, passe sanitaire obligatoire pour ceux qui ne l'ont pas. Il y a quand même possibilité de faire un petit test à l'entrée qui vous permettra de pénétrer dans le Palais des Sports. Voilà, alors, nouveau plateau avec deux invités. On va parler maintenant du budget participatif de la ville de Grenoble et avec un exemple, il s'agit de l'association Jardins sans frontières qui a donc déposé un projet dans le cadre de ce budget participatif. Nous recevons Alpha et Christophe. Bonjour à tous les deux. Ah, il faut bien parler près des micros, hein. Rapproche-toi Alpha, voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Sur l'antenne de News FM. Donc l'association Jardins sans frontières, une association qui a été créée spécialement pour pouvoir déposer un projet dans le cadre du budget participatif, Christophe ?
Alors c'est vrai que les porteurs de projets, dont Alpha qui est avec moi là aujourd'hui en 2019, ont conçu un projet qui est un projet donc de jardin collectif et solidaire qui accueille des migrants. Et pas que, avec un mélange avec des gens de toutes origines, beaucoup de Français qui viennent nous aider aussi. Mmh. Et donc, budget participatif 2019, démarrage début 2021, pas très loin des berges de l'Isère, où donc on a un jardin de 2000 mètres carrés à peu près qui a vu le jour très rapidement. Voilà, on s'est retroussé les manches et aujourd'hui, il y a des productions qui sont données notamment aux associations qui font des repas partagés avec des gens qui ont pas les moyens. C'est ça le principe de ce jardin.
Alors tu disais sur les berges de l'Isère, où exactement ?
Alors, pas très loin de l'échangeur des Sablons. Alors c'est entre le stade des Alpes et puis les berges de l'Isère. Voilà, la route qui part en direction de Saint-Martin-d'Hères, mais toujours sur la commune de Grenoble.
D'accord.
Quartier Valmy.
Alors Alpha, toi tu viens pas d'à côté.
Oui. C'est vrai, moi je viens pas à côté, je viens de la Guinée-Conakry, mais le budget participatif m'a donné une chance de créer un jardin pour regrouper tous les Grenoblois, de jardiner et partager la vie quotidienne ensemble.
D'accord. Ce côté sans frontières, est-ce que c'est donc, comme tu le disais Christophe, parce qu'il y a un accueil des migrants, ou c'est aussi parce qu'il y a une collaboration, une coopération avec des jardins ailleurs, en dehors de France ?
Non, en fait, on accueille donc des migrants qui sont originaires pour la plupart d'Afrique noire. Hein, mais parmi les gens qui viennent, hein, il y a aussi des gens de la cité qui sont de toutes origines. Hein. Donc non, c'est essentiellement pour... alors ça pourrait être une idée, hein, mais on n'avait pas encore là. Voilà, pour l'instant, on est concentré là-dessus. Les coopérations qu'on peut avoir, c'est aussi avec des associations comme le Secours catholique, la Pardap, Emmaüs nous a beaucoup aidés. Et puis les Restos du Cœur qu'on vient de voir là au Forum. Donc avec tous ces gens-là, on collabore à la fois pour avoir des gens qui viennent jardiner et puis pour donner nos productions, donc pour des repas, comme je disais tout à l'heure, des repas solidaires. Hein. C'est ça, la collaboration aujourd'hui surtout.
Et c'est combien de personnes alors qui font partie aujourd'hui de cette association Jardins sans frontières ?
Aujourd'hui, on est une cinquantaine qui viennent, mais le noyau dur, on est une quinzaine. Et les quinzaines, il y a 12 qui viennent régulièrement dans le jardin, quoi.
Donc notamment en semaine, hein, pour pouvoir assurer tout le jardinage. Et puis, on est plus nombreux aussi, et c'est plus convivial aussi. Enfin, la convivialité, c'est important pour nous. Hein. Les échanges, enfin, apprendre à connaître les gens, le travail, c'est super. Hein, on voit ceux qui travaillent, on voit ceux qui ne travaillent pas. Donc, et puis, y a aussi des moments où on mange, on prend des apéros. Enfin, y a des aspects conviviaux qui sont super importants et discutés. Mmh. Et l'idée aussi, c'est que les gens qu'on accueille se mélangent à nous, on discute, on se découvre. Et y a des, en fait, en termes un peu pompeux, c'est des échanges interculturels, mais tout simplement, on passe des bons moments, quoi.
Et alors, qu'est-ce que c'est le principe si on rejoint l'association? D'abord, il y a une petite adhésion.
Là, il y a une adhésion, ceux qui peuvent le faire. Hein. Sinon, il y a d'autres associations, comme il a cité là, la PARDAP, il y a Secours Catholique, il y a Emmaüs qui nous aide beaucoup aussi, pour qui investit beaucoup dans le Jardin Sans Frontières.
Et qui sont membres de l'association en tant que personne morale.
Morale.
Après, effectivement, c'est 10 euros, hein, donc c'est un peu symbolique. Ceux qui veulent mettre plus
pour une année, oui. D'adhésion.
Ceux qui veulent mettre plus, ils mettent plus. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils mettent. Voilà. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de venir, se rencontrer.
Alors après, voilà, quelles sont les conditions? Comment ça fonctionne, ces Jardins Sans Frontières? Quels sont les moments? C'est en semaine, en week-end, en soirée
Oui, actuellement, le fonctionnement du Jardin Sans Frontières, on est ouvert, on est nombreux les mardis et les jeudis. Parce qu'actuellement, moi qui parle aujourd'hui à la radio, j'ai un travail là. Je travaille tout de lundi au vendredi. Donc, mais tous les mardis et tous les jeudis, je suis présent au jardin à partir de 17h.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a trouvé ce créneau, donc c'est les mardis soirs et jeudis soirs, parce que pour beaucoup de gens, finalement, c'est relativement pratique après le boulot de venir, ceux qui peuvent. Mmh. Alors, on avait fait ça le week-end, mais le week-end, le Grenoblois a plein d'activités, donc on avait du mal à regrouper beaucoup de gens. Donc, on a trouvé cette formule, mais après, on peut les gens qu'on connaît bien, qui font partie du noyau dur, peuvent prendre les clés et puis venir. Par exemple, moi, je vais y aller cet après-midi, samedi, hein, et puis il y aura d'autres personnes, on va faire des semis. Voilà, donc on s'organise. Hein, et par contre, le pivot, c'est le mardi soir et le jeudi soir. Du coup, si les gens veulent venir, le plus simple, c'est ça, c'est qu'ils viennent nous voir. On prend un pot au passage, voilà. Et puis, il y a toujours du jardinage et puis des activités plus ludiques, plus sociales. On va dire.
Est-ce que chacun développe son petit lopin de jardin, ou c'est vraiment, c'est collectif? Tout le monde travaille sur l'ensemble du jardin.
Oui, le Jardin Sans Frontières, c'est de travailler tous ensemble et partager les savoirs, quoi. Il y a pas, c'est pas un jardin en parcelle individuelle, quoi. Donc, c'est travailler collectivement, quoi.
D'accord.
En fait, on met tout en commun, on distribue en commun, on partage les savoirs, en effet, on se coordonne pour savoir quelle culture on va faire, à quel moment, etc. Oui.
C'est aussi bien fruits et légumes?
Oui, actuellement, on a beaucoup de légumes qui est là. Et après le travail fait par la ville de Grenoble, ils ont planté des fruits autour du Griaz, mais ça n'a pas commencé à donner d'abord des fruits. Mais on envisage beaucoup de mettre des fruits aussi dans le jardin.
Fruits rouges, la ville a planté, alors c'est peut-être la transition, c'est vrai que ça faisait partie du budget. Des arbres fruitiers aussi, ils en ont planté. Des petits fruits, oui, voilà. Mais le but du jeu, c'est culture vivrière, plutôt légumes, oui. Donc on a beaucoup de pommes de terre, on a fait plein de tomates, on a les courgettes, ouais, voilà. Donc, grosse production.
Est-ce que, pardon Christophe,
Non, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, excuse-moi cher Greg, c'est parce que je ne t'ai pas présenté le plateau. Grégo de l'émission Café Grégo, qui reprend dès lundi matin à la rentrée.
Exactement. Non, je voulais demander à Alpha si il avait déjà par le passé jardiné ou fait des activités comme ça de pousses, de plantations, d'entretien de jardin et tout. À titre personnel, quoi.
Oui, à titre personnel, je peux dire chez moi, quand je parle de chez moi, je parle de la Guinée qu'on a créée. On a beaucoup, beaucoup d'eau. On a la terre qui est russe pour faire l'agriculture. Mais je ne me suis jamais dit je suis un agriculteur, quoi. Ouais. Mais toutes les saisons, à partir de la saison pluvieuse, parce que on a 6 mois de pluie chez nous, je cultive au moins pas mal de choses à côté de chez nous pour récolter des légumes comme du maïs, comme du patate douce africaine, comme des gombos. Aujourd'hui, on a poussé du gombo dans le jardin qui n'a pas donné beaucoup, mais on sait que ça va beaucoup donner dans le jardin.
Trop bien.
Voilà, donc je ne suis pas un agriculteur de profession, quoi.
Mais dans ta pratique, tu avais déjà fait du jardinage, de l'agriculture, faire pousser des choses, quoi.
Oui, des petites choses comme du manguier, faire du maïs, je l'ai cité là, de patates douces africaines. Donc ça, je suis capable de le faire les ans.
Trop bien.
En fait, peut-être pour ajouter, oui, les Africains qui viennent sont des gens qui sont quand même plutôt passionnés de jardinage d'une manière ou d'une autre, qui l'ont fait en mode vivrier chez eux. Mm. Et puis, par contre, les Français qui viennent, moi, par exemple, j'avais jamais jardiné, donc j'apprends.
En plus, c'était la suite de ma question, c'était en mode, ok, d'accord, Alpha, c'est toi, Christophe, est-ce que jardiné avant ça?
Non, et puis alors, parmi les Français ou les gens d'origine européenne qui viennent, y en a qui sont des jardiniers, pur et dur, donc qui nous aident avec des conseils, etc. Et puis il y en a qui démarrent, donc c'est un moyen aussi d'apprendre à cultiver en ville,
bien sûr.
Voilà, donc c'est une approche de la nature où c'est pas juste décoratif, parce que là bon, il y avait une prairie qui était assez jolie, mais c'est tout ce qu'il y avait. C'est une approche différente et une nature qui vient, dont on s'occupe en ville, donc c'est important aussi dans le projet.
Alors, on rappelle que ce projet s'est construit dans le cadre du budget participatif de la ville de Grenoble qui a aidé à monter cette activité. Alors, justement, on va maintenant en parler un petit peu plus et notamment en écoutant un premier extrait d'une interview de Boris Kolitchev, qui est le chargé de projet pour la ville de Grenoble, chargé de projet du budget participatif. C'est lui un petit peu le grand coordinateur. Il nous explique lui-même ce qu'est exactement le budget participatif.
Le budget participatif, on est dans la 7e édition actuellement. Depuis 2015, c'est 800 000 euros donnés chaque année pour que des habitants, des associations et des collectifs proposent des idées pour améliorer la ville de Grenoble. Pas besoin d'être grenoblois pour le faire. Une ou deux lignes peuvent suffire. Et puis ça finit souvent en belle aventure et une belle réalisation. Ça peut être une heure de jeu, un skatepark, une oasis de fraîcheur. Et tout ça, ça contribue à un meilleur vivre ensemble. Le budget participatif depuis 2015, c'est 60 projets. 60 projets lauréats votés par les gens, dont 40 déjà réalisés. Qui est à l'origine de cette dynamique la ville de Grenoble, les élus, le maire, le nouvel exécutif. La crise de confiance envers le politique étant énorme, les personnes se reconnaissant moins dans cet engouement-là et dans cette politique, c'était de se dire on donne du pouvoir d'agir concrètement aux gens à partir de leurs idées. Puis pour une fois, c'est directement tout le monde à partir de 16 ans qui décide des projets réalisés. Mais c'était une intention politique au départ. Dans la réalisation, maintenant, c'est une histoire plutôt et une relation qui se crée entre les techniciens et les porteuses et porteurs de projets dans lesquels les élus ne sont pas présents. C'est vraiment cette volonté de dire il y a de l'argent public mis sur la table et après c'est les propositions des gens et le vote de tout le monde à partir de 16 ans, de nationalité française ou pas, inscrit ou pas sur liste électorale. Je sais que l'auditeur de News... Il y a des jeunes qui suivent et c'est important de dire que sur ce vote-là, c'est pas la liste électorale ni le fait de nationalité française qui va faire qu'on peut voter et qu'on peut décider. C'est vraiment l'intérêt de tout le monde. Et les projets qui ont le plus de voix sont réalisés, mais c'est un dispositif municipal. Le budget participatif, c'est un vrai travail de citoyen. Moi, l'objectif pour moi d'un budget participatif, c'est qu'à terme, plus il y aura des projets animés par les habitants, portés par les habitants et qu'on devient juste facilitateur. C'est vrai que c'est pour ça que moi, en tout cas, je porte ce dispositif maintenant depuis 7 ans. Et sur cette mission, c'est pour les rencontres humaines, c'est pour les échanges et c'est pour ce lien partenariat. Après, moi aussi, j'apprends énormément de choses par le contact humain. Je crois que c'est un dialogue qui est recréé au sein de la ville entre porteurs de projets et techniciens et une nouvelle manière de travailler.
Nous, les Français, on est très râleurs, donc on n'est jamais content de rien. Il y a forcément des Grenoblois, dans le sens habitants de la région, qui ne doivent pas être satisfaits de cette initiative. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre?
Pour moi, c'est logique qu'il n'y ait pas tout le monde qui soit satisfait. Et en fait, l'enjeu, c'est comment est-ce que cette satisfaction, on l'entend aussi au sein des services, au sein de la ville, pour évoluer dans le dispositif. On a un groupe de travail et de réflexion Et en fait, cette insatisfaction, elle remonte aussi aux porteurs de projets qui, eux, ont pas, sont pas institutionnels. Et donc, du coup, oui, il y a des gens qui disent, bah, pourquoi ça fait 7 ans qu'il y a 800 000 euros et qu'il n'y a pas plus de budget? Mais pourquoi ces projets-là, ils seront légitimes? Parce qu'il y a que 7 000 votants et il y a 150 000 personnes qui habitent à Grenoble. Donc, est-ce que c'est vraiment légitime? Donc, toutes ces questions sont prises en compte. Est-ce que avec 800 000 euros, on fait vraiment une politique municipale conséquente? Ou est-ce que, en fait, on fait des micro-projets qui vont pas aller forcément très très loin dans un changement? Ça, c'est des critiques qui après se gèrent au niveau politique. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est l'addition de tous ces micro-projets qui donne aussi un sens et qui donne aussi une direction. Mais le meilleur moyen, c'est pas dire non, c'est parfait, ça serait pas vrai, ça serait mentir. On peut toujours avancer, on peut toujours s'améliorer, et le lien avec les habitants, et c'est pour ça que moi je passe plus de temps en dehors du bureau que dans mon bureau, c'est aussi pour entendre tout ça, et c'est ce qui permet que tous ensemble on avance.
Voilà, c'était Boris Kolitchev, le chargé de projet du budget participatif de la ville de Grenoble. On le retrouvera dans quelques minutes pour une deuxième partie d'interview. Alors, Jardin sans frontières, donc nous sommes toujours avec Alpha et Christophe. Donc ça s'est monté dans le cadre de ce budget participatif. C'est un projet qui a été déposé l'année dernière. Il a donc été voté, il y a eu suffisamment de votes pour que la ville le prenne en compte et donc alloue une enveloppe. Alors ça a été combien l'enveloppe, vous savez?
Oui, le budget participatif sur le Jardin sans frontières, nous on avait eu 135 000 euros au compte de la ville de Grenoble pour D'accord. réaliser notre projet.
Ouais, donc ça fait une belle petite enveloppe quand même pour démarrer ce jardin. Non, vous auriez espéré
oui,
plus.
C'est largement.
Oui. Non, en fait, ce qu'ils font, c'est que après les travaux sont faits par la ville suivant les standards de qualité de la ville. Mm. Hein, voilà. Et donc avec des frais qu'on n'imagine pas, par exemple pour tirer de l'eau potable, pour tirer de l'électricité, faut faire une saignée depuis les bâtiments autour. Enfin bon, tout ça.
Oui, parce que là, c'est pas l'eau de l'Isère.
Alors il y a les deux.
De la rivière,
il y a
quand
les
même.
Deux. Donc on a pour arroser les plantes, c'est pas de l'eau potable, hein, c'est de l'eau qui est dans un forage, donc des puits si on veut. Et puis quand même, il y a de l'eau potable, hein, voilà, voilà, l'électricité, puisqu'on a un petit local, tout ça, et puis. On pense aussi travailler l'hiver, donc il y aura un peu de chauffage, des choses comme ça. Mais non, en fait, ils ont vraiment envisagé les choses de manière générale pour faire quelque chose qui tienne vraiment la route. Mmh. Hein, et donc, on est vachement bien installé, c'est clair. Voilà, et ce qui nous donne aussi une responsabilité pour que ça marche. Enfin, je crois qu'une fois qu'on a ça, après, c'est encore cette semaine, on était en discussion avec une autre association dont j'ai pas encore parlé,
oui.
Ouais, Point d'eau, voilà, pour que peut-être il y ait des collaborations avec des gens qui sont SDF, des choses comme ça. Donc vraiment pour se rendre utile à partir de cet outil qui est mis à disposition.
Alors on sait donc que les projets déposés dans le cadre du budget participatif, cette initiative a pour but de les faire émerger. Mmh. On l'a entendu, hein, Boris rappelait, ce sont des projets qui ont vocation à être collectifs, pour profiter au plus grand nombre. Ensuite, il y a un petit suivi peut-être de la ville. Vous, ça fait un an que ça s'est monté. Là, la ville continue à suivre un petit peu votre activité?
Oui, nous, le projet Jardin sans frontières, on a mis notre idée, c'était en 2019. Le projet a été voté.
Oui, c'est vrai qu'on est en 2021.
Voilà.
Oui, donc, il y a eu la Covid, ça a ralenti. La COVID, hein, ouais.
Voilà. Les travaux.
Il y a eu des travaux. Hein,
ouais, ouais. Les travaux, ce qu'ils nous ont dit, ça devrait finir en 2021. Nous, on devrait se retrouver là-bas presque fin 2021, mais tel n'a pas été le cas, quoi, parce que on a eu des gens qui étaient motivés parce que le projet, il y a tout Grenoblois qui a apprécié le projet. Donc, on était hâte maintenant de nous voir dans le jardin. Donc, on a précipité des choses avant la fin des travaux. Nous, on a fait des semis. Il y avait un collègue, un ami quand même qui connaît bien l'agriculture, qui nous a prêté sa serre à Fontanil. Donc, c'est là-bas qu'on a commencé notre premier semis.
Donc, pour pouvoir semer le plus vite possible.
Oui. Ouais.
Après la ville, donc on a une convention, hein, d'utilisation, donc les choses sont balisées. Il a donc une convention qui fait l'objet d'un suivi, hein, donc qui a été signée entre l'association, puisque nous on est une association loi 1901, et puis la ville, donc une convention d'utilisation des locaux avec pas mal de pages, voilà, et donc et des bonnes pratiques. Hein.
L'association.
Et donc on est aidé aussi, par exemple, j'en sais rien, on a des panneaux un peu publicitaires là qu'on va mettre sur nos locaux, c'est fait par la ville. Enfin derrière, ils rajoutent quand on a besoin de quelque chose, on peut demander. Et ils ont des moyens, ils ont des personnes qui peuvent faire réaliser des moyens de communication. Donc on continue à être appuyé.
L'association s'était montée avant que le projet fasse partie des projets 2019 du budget participatif, ou ça s'est monté après parce que c'était une évidence qu'il fallait se structurer un petit peu?
Oui, mais nous, pour le projet, on s'est pas assis pour faire ce projet. Donc c'était juste une occasion pour nous de mettre une idée sur papier donné à la ville. On veut faire un projet.
C'était un petit groupe au départ.
C'était un petit groupe au départ, quoi, tu vois. Maintenant, après, le projet a été voté. Donc, ils nous ont dit, il faudra que vous créez une association.
D'accord.
Donc, c'est la ville qui nous a donné cette idée. Donc, on est parti à la création de l'association. On a fait appel à Christophe qui connaît pas mal de choses pour la création d'une association.
Voilà. En fait, au début, pour la petite histoire quand même, tu l'as pas dit, mais vous étiez deux, Florence et toi, après d'autres amis guinéens, enfin vous étiez 4-5, et puis après ça, on s'est aggloméré autour, donc entre-temps, il y a eu le vote, hein, et là, effectivement, cette obligation pour nous de réussir, du coup, hein, voilà.
Ouais.
Et du coup, après le vote, quand on a vu que ça marchait, juste après, peu de temps après, on s'est constitué en association. Donc avec des statuts, un fonctionnement associatif rigoureux, sérieux, etc. Quelque part quand même une garantie que derrière ça fonctionne. Hein. Mais après il y a encore beaucoup de boulot et puis de l'animation, évidemment. Enfin bon, ça prend pas mal de temps.
Et là ça va être bientôt les récoltes là, du coup, non? Qu'est-ce qu'on va récolter là bientôt là? J'ai faim, je commence à avoir faim, ça sent la nourriture depuis tout à l'heure.
Là-bas sur notre stand, si tu veux, ouais. Des pommes de terre, des melons, des courgettes,
Yes,
viens te servir, Greg.
Et encore on a du piment aussi, hein, si y en
aussi
a qui
du
veut
piment.
Goûter.
Alors méfie-toi du piment, hein, parce que j'ai essayé jeudi. Et vraiment, alors même les Africains ils trouvent qu'il est fort.
Je vais pas essayer peut-être. J'essaierai plus tard. Non, mais ouais, du coup, il y a les récoltes et tout. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces fruits, de ces légumes, pardon?
Les tomates,
Je pense qu'il a dit dès au début, là, parce que pas mal de récoltes qu'on a fait. Parce que des tomates, on avait au moins une millier de tomates qu'on avait plantées sous la serre et en dehors de serre aussi, qui tout a été récolté et donné à des associations.
C'est donné à des associations.
Donc des cartons entiers, des cajots.
Des cajots.
4, 5, 6 cajots de tomates à des associations solidaires été.
Mais vous en profitez aussi quand même, vous, le fruit de votre labeur.
Oui, les jardiniers aussi en profitent. Ouais. On fait du repas partagé, comme on l'a dit là, tous les jeudis, il y a l'apéro après le jardinage.
Avec vos fruits et vos légumes.
Oui.
Les repas sont toujours faits à la base de ça.
On en prend un peu, mais on n'en prend pas tant que ça. Finalement, les gens, ils repartent un peu pour leur famille, etc. Mais, mais pas tant que ça. C'est vrai que la priorité, tout le monde a compris, c'était la distribution. Ou alors, jeudi soir, on a mangé tous ensemble.
C'est ça.
Voilà.
Ok, d'accord. Donc on rejoint Jardin sans frontières, plus pour la pratique du jardinage. Ouais. Pour cultiver, que vraiment pour profiter des fruits. Les fruits sont distribués, donc là, esprit solidaire.
Oui.
On va écouter le deuxième extrait donc de Boris Kolitchev. Il nous parle justement de la diversité des projets qui peuvent être déposés dans le cadre du budget participatif.
Comme je disais tout à l'heure, il y a 60 projets lauréats. Il y en a 40 qui sont sortis terre dans des domaines divers et variés. Alors pour les Grenoblois, un des plus connus, c'est celui qui se situe en face du téléphérique de la Bastille, où on ne sait pas forcément, et puis en général, quand j'en parle, on me dit « Ah, ça vient de là !» qui tous les transats qui sont au bord de l'Isère et les bancs où on peut se retrouver du côté des, du quai Saint-Laurent et des pizzerias, et ben c'est né parce qu'il y a eu un groupe de 4 personnes qui se sont dit on a une rivière et on peut pas être au bord de la rivière, par exemple. Un autre projet qui a été un des premiers gros projets du budget participatif, c'est Place Saint-Bruno, où il y a l'aire de jeu en forme de dragon qui fait 11 mètres de haut sur 11 mètres de long sur 5 mètres de haut. Ça, c'est parmi ceux qu'on connaît en prime abord au budget participatif. Mais on peut aussi citer sur le cours Jean Jaurès les pergolas végétalisées qui sont en train de pousser. Ça fait 3 ans qu'on avait mis les trails et puis là, c'est en train de se végétaliser avec les bancs. Mais c'est aussi un atelier de réparation de vélos à la Villeneuve, des boîtes de gratuité dans la ville, des nichoirs chauves-souris, rondelles maison. C'est aussi un lieu d'accueil pour les personnes en situation de précarité, le lieu des habitants de la rue et de la ville. Là, on est en train de faire, et c'est un projet qui a été fortement publicité par la jeunesse, on est en train d'installer des distributeurs de protection périodique, gratuite, parce qu'on sait que ça a un coût et que tout le monde peut pas accéder à la santé. Et ça, c'est un projet qui est en train de se faire, qui s'appelle Superflu. Et en fait, il y en a plus de 60. Des aires de jeu aussi. Une aire de jeu accessible aux enfants à mobilité réduite, pour montrer aussi que le handicap doit pas être que cloisonné dans un coin, mais comment on vit, on grandit tous ensemble. Et vivre et grandir ensemble, et vivre ensemble est l'objectif d'un budget participatif. Donc c'est vrai que c'est 40 projets déjà réalisés. Toute l'édition 2015, 2016, 2017 est terminée. Là, on est en train de finir les projets de 2018, à la moitié des 2019, et en train de bien avancer sur ceux de 2020. Mais c'est un millefeuille, parce qu'il y a toujours une édition chaque année, donc après, il faut composer avec tout ça. Le dispositif du budget participatif, il fonctionne en 4 étapes. Une première étape, c'est l'appel à idées. Tout le monde propose ses idées, et les idées sont au fur et à mesure publiées. On n'attend pas la fin pour les rendre visibles. Donc là, on est au début, on sait par expérience que 90% des projets arrivent les 3 derniers jours. Et après ça, il y aura une deuxième étape au mois de mars. En fait, c'est une grande agora où tous les porteuses et porteurs de projets sont invités. On les accompagne dans la mise en place d'un stand. Et tous ceux qui veulent venir, les curieux, participent à une première sélection où on demande aux gens de choisir parmi tous les projets présents 30 projets. Ces 30 projets-là sont sélectionnés pour la suite du budget participatif. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sélection d'élus, il n'y a aucune sélection technique. Ces 30 projets sont alors sélectionnés. Et là, on commence un dialogue avec les porteurs de projets, pour dire, vous aviez, par exemple, je pourrais prendre un exemple assez classique, on voudrait des tables de ping-pong. Ça suffit pour que l'idée soit publiée, mais ça suffit pas pour arriver à mettre un budget, pour faire une étude technique, une étude économique, mais on ne demande pas aux porteurs de projets de réaliser l'étude. Donc, on va poser des questions, combien de tables, combien de parts, qu'est-ce que c'est un spot de ping-pong avec des assises, un sol souple, est-ce que c'est plusieurs endroits dans la ville où vous voulez avoir cette pratique. Et à partir de là, ça va nous permettre, avec les porteurs et porteuses de projets, d'avoir un budget. Ce projet va ensuite être mis au vote, avec un budget identifié. Il y a 800 000 euros au moment du vote, et on fait par ordre d'arrivée. Donc si le premier projet coûte 100 000, il va rester 700 000. Si le deuxième projet coûte 50 000, il va rester 650 000. Et on va faire tous les projets comme ça, jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Et donc, à aucun moment donné, il y a une interface où un projet ne peut pas être rejeté, même s'il correspond pas à la ligne politique de la ville. Et même si c'est un projet sur lequel les élus ne seraient pas d'accord, bah là, c'est aux habitants de se prononcer. Ça s'est déjà passé d'avoir des choses qui n'étaient pas la manière de travailler de la ville. Mais si c'est voté, c'est mis en place. D'accord. Et donc, c'est vraiment ce vote-là. Après, on fait le vote par Internet, dans la rue, en sortie de lycée. Parce que notre objectif, c'est d'aller voir tous les publics. Moi, ce que je peux constater, c'est que le budget participatif en 2015, il y avait 900 personnes qui votaient. Là, on est à 7000 personnes qui votent. Donc, il y a une augmentation. En 2015, la première année, 80% des gens qui votaient habitaient plutôt le centre-ville ou le quartier d'Île Verte ou les quartiers Chaurier-Berria, Centre-Gare. On va dire que sur Grenoble, plutôt des quartiers avec une sociodémographie, je ne veux froisser personne, mais on va dire plutôt moyenne, voire plus aisée. Et qu'on n'était pas du tout présent sur les quartiers de la Villeneuve, sur les quartiers de Tesserre, sur les quartiers du Mistral ou de Malherbe. Et que de plus en plus, maintenant, on arrive à un équilibre de participation. Et ça permet qu'à travers le budget participatif, toutes les populations se prononcent et décident. Donc je pense que surtout, ça contribue à un plus grand vivre ensemble, parce qu'à un moment donné, les gens sont appelés au vote pour choisir des projets sur une liste commune. Après, il y a le passage de comment on porte une idée. Et donc, du coup, c'est vraiment de dire que c'est facile, que tout le monde peut proposer une idée et que souvent, bah, dans les quartiers où c'est peut-être plus compliqué, on a plein d'idées pour améliorer le quotidien, et nous, on est preneurs de ces idées-là, donc jusqu'au 20 juillet, faut pas hésiter.
Et le 20 juillet, c'est terminé. Donc maintenant, c'est plutôt, si vous souhaitez voir quels sont les projets qui ont été déposés, il faudra attendre l'année prochaine si vous avez une bonne idée. Donc voilà, vous tapez budget participatif Grenoble sur Internet, vous arriverez sur le ou les sites sur lesquels vous pouvez avoir toutes les infos. C'était donc Boris Kolitchev, hein, je le rappelle, qu'on a écouté, le chargé de projet pour le budget participatif de Grenoble, qui nous a donné pas mal d'infos, hein, on le voit, une multiplicité de projets, et notamment donc Jardin sans frontières qui a ouvert ses ailes grâce à cette action de la ville, le budget participatif. Alors Alpha, Christophe, si on a envie d'en savoir plus sur Jardin sans frontières, comment on fait pour vous contacter ? En savoir plus et vous rejoindre éventuellement.
Alors, on a des sites, enfin, on a un site et une page Facebook. Donc, si on tape un jardin sans frontières Grenoble, parce qu'il y en a ailleurs, malheureusement. Donc, on tombe sur nos sites. Après, le mieux, c'est de passer donc sur les berges de l'Isère, en direction de Saint-Martin-d'Hères, là, pas loin du stade. Les mardis soirs ou jeudi soir, le mieux, c'est ça. On discute, on rencontre les gens tout de suite.
Donc, à partir de 17h, c'est ça?
17h30 plutôt.
Oui, 17h30, oui. Oui. Même sur le Google Maps aujourd'hui, je pense qu'il y a Jardin sans frontières qui... Le Google sur Maps, il y a le Jardin sans frontières qui est bien indiqué. Il est indiqué. Oui, ouais. Il est bien indiqué aujourd'hui.
Oui,
quoi.
C'est vrai. Oui.
Voilà. Donc on peut aller sur le site pour voir comment aller au Jardin sans frontières, quoi. Parce que moi, des fois, j'ai du mal à expliquer pour le chemin de partir, ouais. Comment partir au Jardin sans frontières, quoi.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus passer
merci
quelques minutes
merci
avec
beaucoup.
Nous.
Et merci à vous et merci à la ville de Grenoble.
Oui, on n'aurait pas fait grand-chose sans eux,
ouais.
C'est vrai.
Vous avez un stand là
Alors, il y a un stand du budget participatif sur lequel nous on intervient comme exemple de lauréat. Mm-hmm. Hein. Et donc c'est pas, mais les gens peuvent venir bien sûr, ouais, pendant le forum. Ouais. Donc on est un peu situé à la sortie en fait du forum dans le palais des sports, donc la partie culturelle, mm-hmm. Voilà. Et mais vous nous trouverez, on a mis des jolis légumes, des fleurs, etc. C'est facile à trouver.
Yes. J'ai compris que Greg, il va vous en faucher deux, trois. Là,
ouais, ouais, voilà, légumes. Ouais, on l'a bien appétit.
Je vais rien faucher, mais je vais rien faucher, pas de souci.
Merci à tous les deux, bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au Jardin sans frontières. Mais oui, vas-y, tu peux faire un petit selfie.
Comment si il s'appelle là
le directeur, c'est le Farid. Directeur, ouais. Quant à nous, eh bien, on va faire une petite pause, comment on dit, la pause méridienne, la pause casse-croûte.
La pause méridienne, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça. J'ai l'impression que je vais aller faire la sieste après.
Et puis on réattaquera les plateaux en direct du Palais des Sports dès 14h. Ouais. On le rappelle, hein, c'est le forum des associations carrément. De la ville de Grenoble qui a lieu jusqu'à 18h. Donc n'hésitez pas à passer pour rencontrer ces nombreux acteurs de la vie associative grenobloise. Passe sanitaire obligatoire et test si vous n'avez pas le tasse. Le pouls, là, je me mélange tout. Si vous n'avez pas le pass, il y a le test qui est possible.
Oh bien,
vous avez beaucoup de P et de S dans la même phrase. Voilà, allez, bon appétit à tous. À
ouais.
Toutes, et puis on se retrouve dès 14h. À tout à l'heure.